Bonjour, bienvenue à Aime l'été, ici Chantal Lavoie, dernière journée de la semaine. Je vous invite à vous joindre à nous tout au long de cette prochaine heure. Ce sera très dynamique puisque Nathalie Barrette et moi serons très bien entourés, des invités qui ont plein de choses à raconter et à partager. Ce sera une occasion de parler de chant et de chant choral tout particulièrement. Une chanteuse et une chef de chœur discutent avec nous de leur passion et nous passons l'heure avec un homme qui a passé une grande partie de sa vie dans les médias en tant qu'animateur et qui nous parle des autres plaisirs qui nous attendent à l'heure de la retraite. Alors, des sujets fort intéressants à venir, voici Aime l'été. Et c'est vendredi, on prévoit bien s'amuser d'ici 13 heures. On aura avec nous en studio la chanteuse Dominika Merola, une femme qui mène une belle carrière en tant qu'autrice, compositrice, interprète et pianiste. Elle revient d'une tournée en Europe. Ce n'est pas sa première. Lors de ses tournées présentées, tant à l'étranger qu'ici au Québec, elle est souvent accompagnée par des chœurs ou des chorales. Alors, nous avons justement demandé à la chef de chœur, Roselyne Blain, de venir nous parler aussi de son métier, de sa passion surtout. On va discuter avec elle de cet intérêt que partagent beaucoup de gens, jeunes et moins jeunes, pour le chant. Et c'est nul autre que Winston McQuaid qui va passer l'heure avec nous en ce vendredi. Il pourra bien sûr s'entretenir avec nos invités et on parlera avec lui des différentes étapes de la vie et du travail, mais également du vieillissement et de l'après-carrière. Alors joignez-vous à nous, une autre belle édition de Aime l'été. Nathalie, bonjour.
Bonjour.
On aime nos vendredis, hein, ouais. Pas juste parce que c'est la fin de la semaine et puis pas juste parce que c'est la fin de semaine qui s'en vient, mais parce qu'il y a quelque chose de festif dans l'air. On a toujours avec nous un invité spécial et c'est Winston McQuaid aujourd'hui.
Bonjour, Chantal, bonjour. Oui. Comment Nathalie vas-tu?
Ça va bien. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de te recevoir, Winston. Je te tutoie parce qu'on a travaillé ensemble. Absolument. Et pour moi, ça a été quelque chose de... Écoute, sa présence, sa générosité, son sourire à Winston... Je l'aime.
Parce que vous avez travaillé ensemble, les deux.
Oui,
effectivement. Sur un projet. Dans un joli projet qui, malheureusement, était abandonné en cours de route, mais qui devrait, en principe, on devrait y faire la place, c'est-à-dire cette espèce d'échange interculturel entre différentes générations qui regardent la même chose, mais qui ont soit différentes opinions, différents...
Un autre regard
sur la chose. Et très souvent, c'est très, très positif parce qu'on s'apporte quelque chose...
Mutuellement,
l'un et l'autre,
ouais.
Musicalement aussi. Mais c'est comme ça dans, tu sais, je veux dire, si tu parles de culture en général, il y a le regard des jeunes de maintenant et il y a le nôtre. Donc, est-ce qu'il y a moyen de rejoindre les deux ensemble? Je le crois. Je l'ai défendu et je continuerai à le faire.
Mais je pense aussi, et je pense qu'on le pense tous. Oui, effectivement. Et puis, écoute, on te connaît, je vais te tutoyer aussi. On te connaît évidemment comme un animateur. Tu as passé une grande partie de ta carrière à Radio-Canada, il faut le dire. Mais tu as fait beaucoup d'émissions différentes. Tu as été dans le monde du sport aussi. Mm-hmm. Tu as animé les Jeux olympiques d'été également pendant à plusieurs reprises.
J'ai toujours cru que c'était possible de marier ces deux choses qui semblent diamétralement opposées pour la plupart des gens, les sports et la culture. Alors qu'il y a plein de sportifs qui sont d'ardents passionnés de culture d'une façon ou d'une autre. Mm-hmm. Et vice-versa, il y a des gens qui sont dans le milieu. Je me rappelle avoir couru un marathon avec Pierre Calvé, qui lui fumait un paquet de gitane par jour et qui m'a devancé d'à peu près un demi-kilomètre à la fin du marathon.
Ouais.
Et j'étais en admiration devant autant de prouesses sportives, mais en même temps, c'est Pierre Calvé.
Pierre
Calvé, c'est un artiste. C'était à l'époque aussi important que Robert Charlebois, que toute la bande qu'on appelait les chansonniers à l'époque. Alors, c'était vraiment ça. Alors, j'ai fait plein de choses.
Le tennis aussi, qui a été une de tes passions.
Véritablement très chanceux de faire ce genre de carrière où, à l'intérieur d'une boîte comme Radio-Canada, j'ai pu me balader, les Olympiques d'une part, le tennis en plus d'avoir été la voix du tennis là-bas pendant une quinzaine d'années au centre ce qu'on appelait, nous, au Parc Jarry. Mais c'était plus le Parc Jarry depuis très longtemps. Là, ça l'est encore, mais pas la structure tennistique autour. Mais enfin, j'ai une carrière qui rendrait jaloux bien du monde.
Alors oui, t'en as profité, on en a profité aussi avec toi forcément. Et puis bien sûr arrive un temps où on arrive à la cinquantaine et puis bon, on se pose des questions, on se remet, c'est ça, on se questionne. Est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce que t'as douté à un moment donné d'avoir fait ces choix-là? Je pense pas.
Ben je vais peut-être l'apprendre à Nathalie parce que j'ai quitté Radio-Canada volontairement au retour des Jeux de Sydney.
Okay.
Pour m'adonner totalement à une carrière où j'avais étudié à l'École des beaux-arts de Québec,
la peinture.
Mm-hmm. Travaillé avec Jean-Paul Lemieux, avec bon, plein de gens que l'on connaît maintenant et qui ont fait carrière là-dedans, ce qui n'est pas mon cas. Cependant, j'étais curieux dans la cinquantaine de voir si c'était toujours là, cette pulsion de création. Je vais continuer à dessiner un peu, suivre quelques ateliers en sculpture, etc., pour garder la main à la pâte d'une certaine façon. Mais quand j'ai quitté Radio-Canada, c'était pour moi comme quitter quelque chose qui m'habitait depuis 32 ans pour me consacrer à autre chose. Tu sais, t'es dans la mi-cinquantaine, t'approches la soixantaine. Est-ce que j'ai fait le bon choix en allant en communication? Si j'étais resté en art visuel, qu'est-ce que ça aurait donné?
Ouais. Comprends-tu? On peut toujours se questionner.
On se questionne là-dessus. Et à Radio-Canada, il y avait beaucoup de boulot. Donc, ouvre la shop, l'atelier, ferme la shop, ouvre la shop. Puis, on n'a pas le temps de finir le projet. Puis, j'ai dit, bon, ben écoute, là, j'ai vu mon papa finir sa vie dans le regret de ne pas avoir fait ce qu'il aurait aimé faire. Mm-hmm. J'ai dit, moi, je ne vais pas là.
Okay.
Je ne vais pas là. Alors, j'ai pris l'aventure. Et ben voilà.
Alors, mais ça veut dire que tu as quand même travaillé et tu fais toujours des tableaux, tu es toujours actif de ce côté-là?
Moins depuis la pandémie.
Ah, d'accord.
Je te dirais que la pandémie m'a rasé le tapis, rasé le gazon.
Alors, tu as peut-être besoin plus de communication, finalement.
Ben voilà, exactement. Ouais. Et pendant la pandémie, on était comme rivés chez nous à ne pas faire grand-chose. Et je regardais sur le web, je naviguais comme tout le monde sur le web, me rendre compte qu'il n'y avait pas de propos culturel, c'est-à-dire qu'on ne traitait pas la culture. Bon. Alors, après réflexion, où pendant 8 ans à Radio-Canada, à la télé, j'ai animé un truc qui s'appelait Télexar.
Oui.
Il était une compilation d'actualités culturelles quotidiennes.
C'était passionnant.
Mais j'ai dit, il n'y en a pas sur le web. Alors, j'ai modifié l'idée au départ de Télexar pour en faire... une vidéo, si on veut, web.
Un genre de balado, si on veut.
Un balado visuel, parce qu'on travaille sur Zoom, et couvrir la culture. Et j'entame, et Sylvie Harvey, ma conjointe et moi, qui est musicienne.
Qui est musicienne à l'Orchestre métropolitain.
Qui est violoniste, entre autres, à l'Orchestre métropolitain. Bon, alors, on entame une quatrième saison.
D'autant plus qu'avec la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que, bien, évidemment, toi, tu suis l'univers de la musique classique, très, très engagé de ce côté-là. Tu as été même au conseil d'administration de l'Orchestre symphonique de Laval, que tu as quitté, je pense, quand même assez récemment, en 2022.
Ouais,
mais tu as toujours été, et puis ta conjointe, comme tu dis, qui est violoniste aussi, alors au sein de l'Orchestre métropolitain, mais aussi au sein de l'Orchestre symphonique de Laval, mais bien d'autres orchestres également. Vous êtes aussi vous vous promenez dans les résidences, vous allez donner des concerts également.
Par le biais de la SAMS, la Société pour les arts en milieu de santé, et dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées, aussi à l'hôpital, ça nous arrive d'être en pleine session de chimiothérapie, à faire un peu de musique pour faire passer le temps aux autres.
Et tu pousses la chansonnette.
Et je pousse la chansonnette dans un contexte où, des années 50 et 60, parce que la clientèle des CHSLD et des maisons pour personnes âgées, ce sont des gens qui ont entendu, n'oublie jamais, les feuilles mortes, la jeunesse, l'Aznavour. C'est bon, alors un répertoire partagé entre le classique du violon, le semi-classique et le pop. Parce qu'il faut bien le dire, Sylvie a un répertoire d'environ 300 airs où elle n'a pas besoin de lire quoi que ce soit.
Oh, merveilleux quand
Donc,
même.
Donc, on s'est entendu sur les éléments de départ et puis
Winston,
pendant une heure.
On parle de vieillissement. Ça t'a affecté pendant un certain temps, par exemple. Est-ce que tu as senti une forme d'âgisme? Parce que J'écoute et je vois, j'ai regardé ton curriculum vitae, mais mon Dieu, tu n'arrêtes pas. Alors, t'es-tu senti vraiment victime d'agisme alors que t'es présent partout?
Je crois l'avoir été dans un contexte commercial.
Oui, c'est ça.
SCAF. On a réagi, pendant 7 ou 8 ans, on a fait des trucs, on a fait des publicités à l'année, si on veut. Et là, il y a eu une réaction à ça. Et il y a eu une prise de conscience, il y a eu une prise de parole aussi à ce propos-là. Mm-hmm. Et l'agisme, c'est insinueux, là, tu sais, je veux dire, ça rentre par des ports, à des places ou dans des portes ou des fenêtres qu'on n'attend pas. C'est tellement ancré dans notre culture, tu sais, que c'est difficile de s'en défaire.
Ça peut être une simple réflexion. Mon Dieu, il a vieilli, parce que là, finalement, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. Puis là, on t'aperçoit à la télé, dans un commercial, et finalement, ça passe du simple commentaire à quelque chose de beaucoup plus méchant encore.
T'arrives à l'hôpital, puis la madame dit... Oui, ma petite madame, qu'est-ce qu'il y a pour vous, ma petite madame? Voulez-vous remplir? Je peux vous aider à remplir le formulaire, si vous voulez. Mm-hmm. Bien, voyons, tu sais, t'as comme 55 ans, t'as 50 ans, t'as 60 ans. T'as surtout pas besoin d'entendre ça, puis de, tu sais, bon. Mais c'est en train d'évoluer.
Bien sûr. Et puis, bon, alors, on parlait de la pandémie. Alors, donc, ton balado, si on veut, ou ta plateforme culturelle sur le web, eh bien, c'est ça, c'est que ça faisait en sorte que, comme on n'avait plus de spectacle, t'as donné la parole quand même, t'as continué à donner la parole aux musiciens, hein, qui avaient moins de tribunes, finalement, pour se produire, et des musiciens classiques, mais pas que ça. Finalement, tu as reçu récemment, comment s'appelle-t-il, Duguay, là, Raoul Duguay.
Alors, c'est... Are you good?
C'est fou. Alors, vraiment...
Alors que tout est dans tout.
Oui. Alors, c'est ça. Donc, tu donnes la parole aux musiciens, mais aussi à des artistes bien connus, à des auteurs. Oui, tu es
Robert Lalonde, Louis... des gens en art visuel aussi, beaucoup.
Oui.
Hein?
Alors, évidemment, c'est non seulement cette garde active, mais tu nous fais partager des petits trésors d'entrevues aussi avec ta conjointe. Alors, ça, c'est intéressant.
C'est comme prendre un café avec...
Oui, je voudrais juste rappeler le nom, si les gens veulent l'écouter. C'est le culturel 2.0.
Oui, et pour le retrouver, Winston McQuaid sur Facebook, le culturel 2.0. C'est la même chose sur YouTube, sur Vimeo, sur Instagram, sur toutes les plateformes, là. Merci, Nathalie.
Non, c'est important de le dire parce que oui, c'est une belle initiative. Et puis, c'est ça. D'ailleurs, je suis ça régulièrement, bien sûr. Alors, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut dire, Winston, tu dis qu'aujourd'hui, là, tu es heureux, tu es content de... Parce que là, on parle de vieillissement, on parle de retraite, on parle d'après-carrière, parce que c'est un peu ça, finalement. Toi, tu as entamé un autre... une suite dans tout ça. Et puis, c'est vraiment... Donc, tu t'es laissé porter par ce bonheur de pouvoir communiquer avec les gens.
C'était le moindrement curieux.
Si
tu as moindrement le goût de l'aventure, de la découverte, si tu as moindrement envie de continuer à faire quelque chose, ne serait-ce que pour toi, pour ta propre gouverne, pour ton propre ego, pour ton propre cœur et ton... Tu sais, je veux dire, moi, je fonctionne au coup de cœur.
Ouais.
Alors, s'il y a un événement culturel, et Sylvie, c'est la même chose. Alors, s'il y a un événement culturel qui, tout à coup, nous accroche, c'est clair qu'on fait un téléphone ou deux, on prend un rendez-vous et on fait 15-20 minutes avec cette personne autour de cet événement-là. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et je passe mon temps à faire ça, alors que souvent, Sylvie est en répétition, en concert, en voyage, en tournée, etc. Donc, c'est comme...
Et tu l'accompagnes aussi, bien souvent.
Très souvent, et je dirais quasiment tout le temps. En même temps, c'est important de demeurer malgré son âge. Bon, je vais avoir 81 le 16 août, c'est important pour moi, comme ça devrait, je pense, être le cas pour l'ensemble des gens qui vieillissent, de vieillir, oui, avec un brin plus de sagesse, avec beaucoup plus de connaissances en toutes sortes de choses, mais en même temps, de conserver le plaisir,
exactement,
le désir. L'envie. T'sais, alors, c'est ça qu'il faut cultiver en vieillissant et ne pas perdre de vue.
Toujours garder des projets aussi.
Oui.
Les projets sont importants en vieillissant. C'est, en fait, peu importe l'âge qu'on a, les projets nous tiennent en vie.
C'est stimulant.
C'est stimulant, t'sais,
je veux dire, on est des artistes, là. On ne se le cache pas, là. On est des artistes autour de la table. Il va s'en ajouter deux autres tout à l'heure. Et il y a, chez nous, des... comment dire? Des vibes. Le mot est en anglais, là. Mais il y a cette force de création qui nous habite. Et souvent, ça nous fait prendre toutes sortes de décisions. Des bonnes, des moins bonnes, des excellentes, et tu sais, bon, et ça va comme la vie. Mm-hmm. Tout n'est pas tellement rose, tu sais, je veux dire. Côté santé, j'ai beau avoir 80, mais j'ai passé 3 cancers.
D'ailleurs, t'sais. C'est ça, tu es un porte-parole aussi, tu t'engages dans des causes, notamment Procure, là, cet organisme pour le cancer de la prostate. Alors, vraiment, tu es très impliqué aussi là-dedans. Donc, puis, en fait, communiquer aussi, bon, sensibiliser les gens aux bonnes habitudes de vie en vieillissant, c'est très important, c'est fondamental pour un beau vieillissement aussi. Alors, écoute, on s'arrête, nous, le temps d'une petite pause. Et puis, on retrouve Roselyne Blain qui va nous parler du chant choral. Alors ça aussi, tu es sensible à ça, mon cher Winston.
Absolument.
Alors, on y revient. Alors, on accueille Roselyne Blain, chef de chœur. Enfin, quand même, je dirais encore une sommité. On reçoit que des sommités. Alors, bonjour, Roselyne.
Bonjour.
Alors, Roselyne, là, vous êtes présentement dans le domaine... Enfin, vous êtes au Bergeron, je pense, aujourd'hui.
Oui, je suis au Bergeron et puis j'ai vu des rorquals ce matin.
Oh, wow!
Des marsouins. Des phoques.
Oh.
J'en ai eu plein la vue. C'est une journée splendide aujourd'hui, oui.
Alors, c'est ça. Donc, vous donnez, évidemment, vous dirigez un chœur là-bas. En fait, qu'est-ce que vous dirigez aujourd'hui précisément?
Bien, en fait, on m'a invité à faire participer les gens qui participent au festival. Il y a un festival ici qui s'appelle le Festival de musique intime de musique classique.
C'est beau.
Donc, on m'a invité à faire chanter les gens pour animer ce festival. Donc, il y a des musiciens qui sont invités à donner des concerts le soir. Et moi, je donne un atelier interactif qui est offert à tous les festivaliers les après-midi.
Parce qu'aussi, vous étiez à Charlevoix, au domaine Forget, notamment, pour donner, bien sûr, de la formation comme chef de chœur.
Oui, c'est ça. Bien, ça va être au mois d'août. J'y étais en août dernier. Donc, on m'a invité à diriger le stage de chant choral qui se déroule là-bas en août. Et j'y retourne cette année avec de nouveaux stagiaires, un nouveau programme. Et le but étant de faire vivre aux gens dans un contexte où il y a beaucoup de jeunes professionnels qui s'en viennent se former au domaine Forget. Et c'est un endroit magnifique. Et on travaille une œuvre en particulier et on l'offre en concert à la fin de cette semaine-là, devant public également, dans la église toute charmante de Saint-Irénée.
Ouais. Bon, Nathalie, justement, Winston est avec moi. Vous savez, Winston McQuaid, qui s'intéresse beaucoup à la musique classique, le chant choral. Alors, c'est vraiment, on est dans le même élément, là.
Alors, on va se retrouver peut-être au domaine Forget, qui est un lieu absolument magique, qui est un lieu... écoute, j'avais à choisir une salle de concert au Québec qui est exceptionnelle, oui, il y a la Maison symphonique, c'est clair. Il y en a peut-être, il y en a d'autres aussi. Mais je dois dire que la salle du domaine est absolument magnifique sur le plan sonore. C'est vraiment très, très
bien. Oui, c'est extraordinaire. C'est une véritable chance d'avoir une salle comme ça au Québec. Et puis, ça mérite une visite. Là. Je trouve que les gens pourraient aller encore plus au domaine de Forger, écouter des concerts, parce que c'est une académie, mais c'est aussi un festival. Donc, il y a des musiciens qui se produisent là.
Tout à fait.
Là, au moment où j'y serai, il y aura les violons du roi qui seront là. Mm-hmm. Donc, il y a des concerts extraordinaires.
Et à l'Orchestre métropolitain qui va être là à côté du 23 pour présenter deux concerts. Il y a l'Orchestre métropolitain qui va être sur place à compter du 23 pour présenter deux concerts.
Mais en fait, vous avez collaboré avec tous ces grands orchestres, mais en fait, vous dirigez beaucoup de chœurs, Roselyne, et ça depuis longtemps. Vous avez quand même, vous êtes encore toute jeune, mais vous avez une longue carrière dans le domaine. Et bon, le chant choral, c'est rassembleur, c'est libérateur à la fois. On dit qu'il y a quand même plus de 130 000 jeunes et moins jeunes qui pratiquent le chant choral au Québec. Et il y a peut-être jusqu'à 3 000 chorales au Québec. C'est quand même
c'est fou,
quelque
hein?
chose. On parle de que ce soit des chorales d'école, des chorales plus professionnelles, mais évidemment, il y a toutes sortes. Il y a les municipalités qui ont des chœurs de chant. Moi-même, j'ai fait partie au cégep du chœur de Sainte-Thérèse. Mon fils, d'ailleurs, vous connaît bien, puisqu'il a été avec Grégory Charles, avec les petits chanteurs de Laval. Alors là, vraiment, il peut vous diriger combien de chorales et de chœurs présentement?
Mais en ce moment, j'ai 5 chœurs que je dirige, donc je suis la directrice artistique, et dont il y en a 3 que j'ai fondé moi-même. Et il y en a un 4e maintenant que j'ai quitté mon poste parce que je commençais à être un peu trop occupée, mais j'avais fondé
beaucoup.
Petit plateau qui était un chœur d'enfant qui était extraordinaire. Et puis, ben, je suis très contente parce que vous l'avez dit, on chante dans les écoles, mais je pense que les enfants pourraient chanter encore davantage. Et pour moi, c'était important de créer un chœur pour que des enfants qui viennent de différents milieux puissent se réunir et chanter et partager l'amour de chanter. Mm-hmm. C'est quelque chose qui reste toute la vie, ça, après. Et des fois, ben, ces gens-là, même si ces jeunes-là, même s'ils arrêtent de chanter, ils retournent au chant choral. Alors, j'avais 4 chœurs que j'avais démarrés, plus 2 autres. Alors, j'avais 6 chœurs, c'était beaucoup. Et là, j'en ai cinq qui m'occupent déjà énormément, plus ben, des contrats comme ça là, qui apparaissent. On m'appelle des fois pour des projets plus éphémères. Alors,
il faut dire aussi à l'international, les chœurs, c'est très important. Il y en a partout. Il y a des réunions de chœurs, il y a des rencontres de chœurs. Il y a des festivals de chœurs un peu partout sur la planète.
D'ailleurs, Roselyne, on va parler avec Dominika Merola, qui a beaucoup l'occasion en tant que chanteuse. Elle se produit souvent avec piano et tout, mais elle est souvent accompagnée. Elle fait des tournées en Europe et même en Asie. Et puis, elle est souvent accompagnée de chœurs, de chorales. Alors, vraiment, c'est très, très, très dynamique au Québec. Et, il y a eu des festivals chorales, bien sûr. On se souviendra de Grégory Charles qui avait parti le sien. Il y a eu plein de chœurs. Que ce soit des chœurs de garçons, des chœurs mixtes, des chœurs de filles, enfin, il y en a de toutes les sortes. Et on s'est parlé l'autre jour au téléphone, je vous parlais aussi de chœurs inclusifs. En Europe, on voit ça maintenant, des gens qui sont en situation de handicap qui chantent dans des chœurs.
Mm-hmm.
Et vous avez presque une figure, en fait, Roselyne, je m'excuse, je parle beaucoup, mais vous avez presque une figure maternelle, en quelque sorte. Le chef de chœur, là, c'est quelqu'un qui a une grande influence sur les jeunes, notamment.
Oui, oui. Quand on plonge dans cet univers-là, on ne se doute pas de ce qu'on peut apporter. Je pense que c'est comme les enseignants, hein. Il y a quelque chose de, premièrement, il y a quelque chose de très, très, très pédagogique dans tout ça. Moi, j'ai toujours dans la tête, premièrement, je travaille avec le milieu. Je travaille un petit peu avec les professionnels, mais je travaille davantage avec le milieu amateur. Donc, ce sont des gens ou des jeunes qui vont à l'école le jour, qui viennent répéter le soir ou la fin de semaine. Même chose avec les adultes. Donc, quand on arrive devant ces gens-là, on est là. Ma première chose, c'est je suis là pour leur faire du bien. Les gens viennent de faire de la musique pour chercher quelque chose qui leur fait du bien. Alors, forcément, ben, il y a peut-être... puis moi, ben, je suis une maman aussi de 4 garçons. Alors, naturellement, il y a peut-être quelque chose de dimension maternelle qui prend le dessus, mais je me suis rendu compte de ça au fil du temps. Faut pas pour me lancer des fleurs, parce que je pense que c'est ça avec des enfants.
Non, mais t'as le droit, hein, t'as le droit de t'envoyer des fleurs, parce que ça passe rarement. Le plateau de fleurs passe rarement, trop rapidement. Étant donné que vous êtes...
J'entends beaucoup de commentaires à rebours des gens qui me disent tu as fait beaucoup de bien, mon garçon. Il y avait des problèmes.
Absolument.
Bon, puis dans le fond, ils me disent tu, mais c'est pas moi. Moi, je suis au service de la musique. C'est la musique qui a fait du bien. Mm-hmm. On est des intercesseurs dans le fond. Puis je pense que si on a compris ça, on comprend l'essence du métier et de ce que c'est chanter ensemble. Peu importe le niveau du chœur, peu importe même le niveau du chef, en fait, je pense que c'est l'essence, elle est là. C'est dans le goût de transmettre le bonheur et le plaisir de la musique et l'amour. L'amour de la musique, c'est... Tu peux pas être un artiste.
Puisque tu es déjà au Bergeron, et qu'entre Bergeron et Montréal, où nous sommes en ce moment, il y a Québec. Et à Québec, il y a une personne... que je salue, à qui je donne un grand coup de chapeau, c'est François Provencher. François Provencher qui a passé sa vie à s'occuper de chœurs, à monter des chœurs et à préparer des événements aussi qui permettraient à des chorales, à plusieurs chorales, de venir, par exemple, au Palais Montcalm, donner 2 jours de récital avec grand succès, les salles pleines. Mmh. Alors, est-ce que ce François Provencher a été pour vous quelqu'un de marquant?
Ben, en fait, moi, je connais le nom de François Provencher, mais je vais vous dire une chose d'assez particulière, c'est que les gens de Montréal et les gens de Québec ne se connaissent pas.
C'est ça.
Donc, non, j'ai pas eu la chance de côtoyer de près cette personne, mais je me permets de dire que les influences des gens qui passent avant nous sont très, très, très importantes et je trouve qu'elles devraient être reconnues davantage. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai dirigé le Chœur national des jeunes du Canada, le programme que j'ai concocté, je l'ai appelé « Héritage ». Et je trouvais que c'était important de montrer aux jeunes, parce que ce sont des jeunes entre 19 et 26 ans, qu'il y a des choses qu'on vit quand on a 20 ans, on ne sait pas que ça nous marque. Mais elle nous habite toute notre vie, des rencontres, du répertoire en particulier, une pièce en particulier qu'on a chantée dans un tel esprit ou un moment de notre vie en particulier. Je trouve que les gens qui ont tracé le chemin pour nous avant doivent être davantage reconnus. Alors, oui,
c'est tout à fait. Et puis on pense à Gilbert Patenaude, c'est ce que j'allais dire, évidemment, qui a eu la figure paternelle dans son cas. Et puis, bon, je me souviens d'avoir eu comme chef de chœur Jean-Pierre Guindon. Et bon, ça, c'était dans le temps où je faisais effectivement du chant au cégep. Bon, ça fait quand même longtemps, mais ça a été aussi un chef de chœur.
À l'époque où t'étais rockeuse.
Ah, ben voilà. Mais en fait, mais c'est ça, il y a d'autres personnes comme vous qui dirige des chœurs. Et puis, ben, évidemment, c'est une formation en même temps universitaire. Mais Roselyne, on va juste... tantôt, on va s'arrêter quand même pour une pause. Je vais vous garder un petit peu, là, parce qu'on va faire le lien avec notre chanteuse Dominika Merola. Mais je voudrais juste vous garder un petit peu pour conclure dans un instant. Ce sera pas bien long. Alors, je vous garde avec nous et puis on se reparle tout juste après la pause. D'accord?
Avec plaisir.
À tout de suite.
À tout de suite.
Vous écoutez Aime l'été.
Et deuxième moitié d'heure, on continue avec Roselyne Blais, mais on va aussi s'entretenir avec Dominika Merola dans un instant, qui est avec nous. On va parler de sa carrière dans un instant, mais je voulais juste qu'elle puisse parler aussi de ce qu'elle vit quand elle part en tournée, parce que je disais à Roselyne Blais, qu'on a à l'autre bout du fil, justement, à quel point elle est transportée elle-même par ses chœurs, que ce soit d'adultes ou d'enfants, quand tu pars en tournée, Dominika.
Oui, c'est extraordinaire. Bonjour, Roselyne.
Bonjour.
Alors, ça me fait plaisir qu'on puisse se retrouver comme ça ensemble entre artistes. Et puis, alors c'est ça, lorsque je pars en tournée, que ce soit en France, en Europe et puis même à Montréal, en fait, il y a toujours cette sensation, en fait, on sent grandir et puis on retrouve comme une famille. Et puis, c'est que tous ensemble, on a comme cet amour, en fait, de la musique. On partage ensuite des soirées, on se fait des amis. Et puis, c'est extraordinaire, en fait, tout l'aspect positif qui ressort du chant choral et puis même dans les répétitions, lors des concerts, c'est extraordinaire. Alors, moi, depuis quelques années, je fais des concerts et puis... Je découvre, en fait, je collabore avec des chorales, que ce soit ici à Montréal ou bien en France. Alors, et puis, il y a comme toujours des projets. Et puis, c'est comme... Moi, je trouve ça extraordinaire, ce métier, en fait. Et puis, de vous rencontrer aussi.
D'ailleurs, Roselyne, ben, c'est ça. Vous enseignez aussi la direction de chant choral. C'est quand même un métier à apprendre en même temps.
Ben en fait, je pense que c'est comme quand on a un instrument, on perfectionne en fait notre art, et puis après ça, ben il y a quelque chose d'assez naturel de vouloir un peu passer au suivant. Puis en même temps, c'est ce qui est dans l'enseignement, ce qui est beau, c'est de pouvoir partir avec la personne. Donc en direction, l'instrument, c'est la personne elle-même. Donc c'est pas nécessairement d'enseigner la technique, c'est d'aller chercher qu'est-ce que t'entends toi, et comment tu vas le communiquer avec des gestes à ton cœur? Alors, c'est quelque chose qui s'apprend, je pense, à juste s'observer soi-même, comment on travaille nous-mêmes. Et puis après ça, ben, c'est d'encourager les gens à aller au bout de ce qu'ils entendent.
Hein. D'ailleurs, ben, aussi, vous mettez à l'avant-plan, c'est de trouver le répertoire, de mettre à l'avant-plan aussi des compositeurs plus actuels. Là. Et on pense à Eric Whittaker, on pense à Dan Forest. Mais évidemment, il y en a ici où, des gens qui composent aussi pour le chant choral. Alors, c'est de mettre de l'avant ces compositeurs-là. Et également, vous pouvez même faire des arrangements. On sait que, bon, Gilbert Patenaude faisait régulièrement des arrangements aussi pour le chœur. Mais en fait, on dirait que, ben, vous savez, les films aussi, le cinéma a mis quand même de belles histoires de chœur aussi. Mm-hmm. On pense aux choristes, hein, on pense au film de François Girard, également le Virtuose. En fait, ça s'appelait, je pense, La Leçon ici au Québec. Mais enfin, alors, de belles histoires avec, vous savez, ce film avec Dustin Hoffman. Bon, alors, évidemment, ça se communique et puis, ben, vous êtes un bourreau de travail, donc je sais que Roselyne, vous êtes bien occupée. Alors, ben, en tout cas, on va vous suivre dans votre carrière. Ben,
c'est aussi, si tu permets, j'aimerais, Chantal, quand on regarde, prenons l'exemple des petits chanteurs du Mont-Royal, le nombre de personnes de ces jeunes-là qui sont restés dans le métier.
Absolument.
Et qui se sont spécialisés. Je pense à Quartum, par exemple. Toute la gang était là ensemble, comprends-tu? Mais il y a des gens qui sont passés par là. Il y a des pianistes, il y a des solistes.
Absolument.
Alors, c'est comme une étape de base. Hein? On a beau connaître la musique, lire la musique et tout ça, mais qu'est-ce que c'est que d'être un artiste sur une scène à présenter une œuvre qui va faire pleurer les gens ou... Il va égayer la foule, si on veut.
Ouais.
C'est un art en soi.
C'est un art. Et puis, quand on pense qu'il y a plus de 130 000 jeunes et moins jeunes qui pratiquent le chant choral, alors ça fait bien du monde, qui ont besoin de chanter aussi. Pas besoin d'une voix non plus extraordinaire. Il suffit de chanter juste, hein, Roselyne?
Oui, absolument. Puis moi, ce que j'aurais envie de rajouter au propos de M. McWade, c'est que il faut pas oublier non plus que les gens qui viennent écouter les concerts aussi, ça fait du public. Et ces gens-là s'éduquent à la musique. Et ensuite, c'est eux qui vont aller entendre des concerts d'orchestre symphonique. Et les choristes aussi deviennent à leur tour du public. Alors, c'est important de reconnaître
c'est
le chant choral à
cette
mesure parce que ça a des répercussions qui sont dures à déclarer.
Calibré.
Elles sont là, elles sont énormes. Moi, j'ai des garçons qui ont fait les petits chanteurs du Mont-Royal et ils sont pas nécessairement musiciens aujourd'hui. Mais ils ont une sensibilité, ils vont aller au concert, ils savent ce que c'est la vie d'artiste, ils peuvent comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Alors, ça a des répercussions immenses. Alors, moi, je trouve que...
Et puis, en même temps, c'est ce besoin non seulement de chanter, mais en plus de socialiser. Alors, c'est vraiment... Merci, Roselyne Blain, d'avoir pris ce temps pour nous en parler. Et puis, évidemment, on ne peut pas décrire tout ce que vous faites, mais vous le faites bien, en tout cas. Vous le faites bien.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et puis je vous souhaite une belle fin d'émission.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Merci, Roselyne.
Connu, bien sûr, cette pièce de Leonard Cohen, mais oui. Bien avant, on a eu d'autres extraits de ta belle voix, Dominika Merola, avec qui on va jaser, avec Winston McQuaid, Nathalie Barrette. On va continuer notre conversation. Là, parce qu'on a parlé du chant choral, justement, tu nous disais que tu chantais régulièrement avec des chœurs. Mais là, ce qu'on entendait, évidemment, un répertoire très varié aussi.
En fait, oui, on a commencé avec le Lacrimosa, le Requiem de Mozart, où j'avais été invitée à chanter à l'église Saint-Jean-Marché à Troyes, la ville natale de Marguerite Bourgeois. J'avais été invitée pour le 400e anniversaire de Marguerite Bourgeois. Et c'était la chorale La Barbeline qui m'accompagnait. Alors, ça a été un magnifique projet. Et on avait enregistré le concert en live, en fait. Et puis, ça a été tellement une belle expérience qu'on s'est retrouvés ensemble lors de ma tournée précédente au printemps, en avril 2024. Et ensuite, Touchen Dida Lestelle, c'était une collaboration avec Vicus Oerus, une autre chorale, en fait, en France, où j'avais eu le grand bonheur de faire plusieurs églises aussi durant les concerts de Noël. Et bon, ben, je suis en train de faire un résumé des extraits.
C'est ça, exactement. Mais...
ce qu'on a entendu, je chante les mots la vie, ben ça, c'était une de mes compositions, puis accompagnée par l'orchestre à cordes du Conservatoire de Laval à l'Espace Mayenne. Pas Laval ici, mais le Laval en France, alors à la salle Barbara Hendrix.
Alors, en fait, bref, parce qu'il y a au moins 3 albums. Bon, attends.
J'en ai 4.
4 maintenant.
Oui, c'est
okay,
ça, exact.
D'accord.
Et des collaborations
des
aussi.
C'est en retard, Chantal.
Je ne peux pas tout savoir. Mais elle est
non, elle est pas en retard. Au contraire, elle se tient vraiment au courant.
Elle est là pour me corriger, justement. Et puis, c'est ça. D'ailleurs, bon, cette passion pour la musique, ben, elle vient notamment j'allais dire de ta famille, mais en fait, ton père est dans les arts visuels. C'est Mario Merola,
ouais,
ben voilà. Son père.
Tout à fait.
Exactement.
Ouais.
Alors, toi, Winston.
Que je mets à l'enchère une fois de temps en temps.
Ah, c'est fou parce que tu es commissaire priseur.
Oui, à l'éco-musée du Fairmonde. On a eu l'occasion, je pense qu'il y a deux des pièces. Bon, ça fait quoi, 15 ans que je fais ça chaque année, là.
Ouais.
Mais il y a des pièces de ton père qui sont parties, là, qui vont chercher des bons montants d'argent.
Ah non, mais écoute, mon père, c'est un grand artiste et puis j'en suis tellement fière.
Absolument.
Un artiste muraliste qui a réalisé des œuvres dans les métros, qui a été aussi comme un précurseur pour plein de projets ici à Montréal et puis qui a exposé à travers le monde. Il y a ma mère aussi qui est comédienne, qui a, en fait, mes deux parents sont vraiment vivants et puis comme très... ils m'ont toujours inspirée. Il y a ma tante Colette qui a été une chanteuse lyrique et puis c'est ce elle qui m'a donné, en fait, le coup de foudre de chanter à l'âge... Oui, tante Colette, Colette Merola, la sœur de mon père. Alors, à l'âge de 5 ans, lorsque j'ai entendu Carmen, elle amenait toujours des disques tous les dimanches. C'était comme une fête chez nous. Mon père sortait la trompette et il y avait un piano dans le salon. Alors, elle amenait des disques d'opéra, des disques italiens. Et quand j'ai entendu la Carmen, j'avais 5 ans, ça a été le coup de foudre. J'ai dit, je veux devenir chanteuse.
C'est moi, ça, la Carmen.
Non, je voulais tout simplement séduire un homme. Et tu avais trouvé un véhicule
parfait.
Mais en fait,
c'est peut-être, c'est comme on voyait comme tous ces beaux toréadors qui chantaient, qui étaient là, mais c'est comme...
Alors donc, tout a commencé avec Colette. On a tous une tante Colette. Mais moi-même, j'en ai une.
Je l'ai dit cette semaine, c'est important d'amener les jeunes, d'amener nos enfants.
Mais
écoutez et voir ces spectacles-là pour semer justement ce que vous avez vécu. Là.
Mais oui,
à 5 ans, cette flamme-là.
Mais c'est, je veux dire, Carmen, bon, tout le monde connaît Carmen de Bizet, mais c'est parce que c'est rythmé, enjoué, il y a du tango, il y a de la passion, de l'amour, et puis c'est comme...
Il y a du drame.
Ah oui, tout à fait. Ouais. Il y a toujours des drames dans les opéras.
Et puis, mais en fait, tes albums, les titres, Appassionata, Bohémienne de cœur, en fait, tu sais, ça définit bien Dominika, quand on la connaît, quand on la voit.
Je suis très curieux. Tu écris également, tu composes.
Oui, je compose la musique.
J'ai une de mes amies qui est chanteuse, tu vois, Rose, et puis la grande...
Pas Rose Nagar.
Oui, Rose Nagar.
Rose Nagar Tremblay. Oui, que nous allons sans doute recevoir. Ouais.
J'espère, parce que oui, puis elle compose.
Ah bon?
Elle a un répertoire, elle s'accompagne, elle est aussi guitariste. Et je trouve que c'est important que des gens qui sont des solistes et qui travaillent avec des orchestres aient ce réflexe d'écrire,
c'est
s'identifier davantage
et de se révéler
finalement.
Ben, tout à fait. En fait, c'est qu'au départ... Avant de chanter, j'ai été musicienne. J'ai étudié le piano parce qu'à l'âge de 5 ans, je voulais tout de suite chanter. Et puis, on me disait dans le milieu classique, une voix à l'âge de 5 ans, on ne veut pas comme la briser avec plein de vocalises. Il faut que ce soit une voix naturelle. Alors, on m'a dit, un piano dans le salon, tu vas commencer tes études au piano. Et puis, je me suis installée. Puis, j'adorais ça, finalement.
T'aimais ça dès le départ.
Oui, j'ai aimé ça. Je m'installais toute seule. Je travaillais une heure par jour, une heure et demie à l'âge de 5 ans. Et puis, j'ai poursuivi. Bon, puis je dévorais mes livres de solfège. Ouais. Je lisais dans toutes les clés, clés d'ut, clés do, clés de fa, clés comme ça. Habituellement, là, je veux dire, ça, mais
puis
ça
a été... étudié à Vincent Dindy,
bien sûr. Oui, tout à fait,
sûr,
exactement.
Donc,
t'as suivi une
véritable formation. Et bien sûr que tu es donc auteur, autrice, compositrice, interprète, pianiste, alors vraiment,
oui,
tu as tous les talents.
Mais j'ai pas tous les talents, mais c'est la musique au départ. J'ai collaboré aussi avec plusieurs auteurs et paroliers.
Ah, tout à fait, et Roger Tabra notamment.
Oui, et il y a eu Pierre Huet aussi.
Pierre
on Huet. A fait une pièce ensemble, Les mots tressés, Marc Chabot, et puis des auteurs paroliers français aussi. Sandrine Roy, et puis donc...
Michel Drucker, d'ailleurs, on parle de la France, disait de toi que tu as une des plus belles voix, tu es une des plus belles voix du Québec.
Ah, ben
quand
écoute...
Même.
Mais faut faire attention. Drucker a déjà dit la même chose de moi.
C'est vrai, ça? Ah non, mais une voix radiophonique, il n'a pas parlé peut-être de la voix chantée.
Exactement.
Bon, c'est ça.
Exactement.
Mais c'est vrai, il avait raison.
C'est trop drôle.
Dis donc, Dominika, tu es aussi allée en tournée en Asie.
Oui.
Tu as chanté d'ailleurs avec une cantatrice taïwanaise, dis-je bien.
Ching Wei Kuo.
Oui, alors je n'osais pas dire son nom, c'est sûr, je n'allais pas m'aventurer. Mais en fait, comment ça s'est passé en Asie? Est-ce qu'il y a des différences marquées dans l'accueil? Ou...
Écoute, en fait, c'est à Taïwan où j'ai été invitée. Et Taïwan, c'est une île, en fait, qui est autonome, libre, indépendante. Et puis, c'est ce qui m'attirait aussi d'aller à Taïwan. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, je veux dire, récemment, et puis ils sont toujours comme sur un fil, alors avec toutes les au niveau politique et tout ça. Mais je trouve que c'était une aventure pour moi de traverser, en fait, l'océan de 24 heures en avion et puis d'aller chanter. Ça faisait 3 ans qu'on préparait ce projet, Ching-Wei et moi-même. En fait, ça a été le départ avec Laisse-toi bercer, une de mes compositions, qui est née pendant la pandémie. Ching m'avait dit, elle m'appelle Mimi, là, mais parce qu'au départ, on était deux grandes amies, on s'était rencontrées à Montréal. Ching Wei avait vécu à Montréal quelques années, puis ensuite, elle s'est retrouvée à Taïwan. Alors, on s'était dit, bon, c'est la pandémie, on va faire quelque chose ensemble. On pourrait faire ça avec un cellulaire. Ben, j'ai dit, Ching, avec un cellulaire, j'ai dit, ça ne va pas rester longtemps. J'ai dit, j'ai engagé un réalisateur, en fait.
C'est mieux, oui.
Sur une de mes chansons, Laisse-toi bercer. Des paroles d'Isabelle Lavoie. Et puis, j'ai proposé à Ching d'écrire quelques phrases en mandarin qu'elle a chantées dans sa langue. Et pendant la pandémie, on ne pouvait pas aller tellement loin. J'habite dans le quartier Hunsic, qui est la rivière des Prairies. Alors, on parlait d'océan, on parlait de distance. Alors, j'ai chanté avec les images de la rivière des Prairies, de la montagne Mont-Royal, et Ching, elle a chanté près de la mer. Alors,
deux univers, mais quand même.
C'est ça, tout à fait. Et à Taipei, alors ça a été...
À 12 000 kilomètres de
tout
distance.
Tout à fait, à 12 000 kilomètres de distance. Il y a eu un montage, musique, et puis au niveau visuel, ça... Et puis c'est ça qui a été le grand départ pour la tournée... Opus Music Art a embarqué. Et puis, on s'est retrouvés dans les plus belles salles, en fait, là-bas, de concerts et dans plusieurs villes.
Quand même incroyable.
Villes.
Donc, une carrière, finalement, qui commence tranquillement et qui va prendre son envol, justement, parce que, évidemment, il y a le Conseil des arts qui vous donne des bourses.
Tout à fait.
Tu as reçu des bourses, justement,
pour
partir en tournée. Donc,
c'est tout un réseau.
Voyage, déplacement.
Oui, exactement.
Oui, mais c'est important.
Oui, ah ben,
c'est pour Taïwan, pour la France, pour la Belgique également. Donc, c'est un grand support, tu sais, pour...
Oui, alors de belles rencontres. Alors, on a parlé de cette rencontre avec des auteurs, tout ça. Alors, c'est très riche, finalement.
Oui.
L'air de rien, bon, pas besoin, comme on disait, d'être dans le séjour ou enfin, tu sais, en première page des journaux tout le temps pour faire une carrière magnifique, n'est-ce pas, Winston?
C'est qu'il y a tellement de possibilités.
Ben, c'est-à-dire qu'il faut... Bon, il faut être réaliste, là. Montréal, le Québec, la ville de Québec et l'ensemble territoire produit des artistes d'un talent exceptionnel. On retrouve ça en théâtre, on retrouve ça en art visuel, on retrouve ça en littérature et ne serait-ce que pour la poésie. On est le territoire qui consomme le plus de poésie de l'ensemble de la francophonie.
Absolument. On a des festivals de poésie.
Effectivement. Oui. Alors, et la musique.
Oui, la danse aussi, ce sont de grands ambassadeurs.
La danse contemporaine, etc.
Bien sûr, oui.
Mais il faut dire en même temps que la demande ou l'offre musicale dans les grandes villes maintenant, les plus grandes villes comme Montréal, Québec, est phénoménale. Tu sais, je veux dire, on a l'embarras du choix.
Oui, c'est vrai.
La salle Bourgie, c'est plein presque à tous les jours. Là,
oui, il y a de belles salles aussi, évidemment.
Très belles salles.
Tout à fait. Nathalie, il faudrait se développer un talent, nous, là, si on veut partir à quelque part.
Mais on reçoit tellement de gens talentueux que c'en est gênant.
On a besoin des gens comme vous pour diffuser les artistes aussi également.
Et oui. Mais tu n'es pas la seule de la famille à avoir aussi ce talent. En fait, il y a ta sœur, parce que là, vous allez donner, ta sœur et toi, les sœurs Mérola.
Oui, c'est
ça. Vous allez quand même donner un concert. On parlait de poésie, tout ça. Ça va être dans le cadre d'un festival de littérature jeunesse?
Tout à fait. En fait, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que j'avais déjà chanté pour les concerts La Chine. Et Caroline, elle présente justement des ateliers puis pour le Festival Jeunesse de Montréal. Et là, ils nous ont proposé de nous réunir ensemble pour un concept de spectacle. Alors, on va se retrouver sur la grande scène de Concert La Chine le 11 août à 2h.
Oui, 14h30.
14h30. Et puis...
c'est moi, mais...
Oui, c'est ça.
C'est alors, mais je crois que ça, c'est 14h, s'il y a eu une erreur dans l'Internet.
D'accord, c'est possible. Bon, en tout cas,
tu seras là. Mais c'est que ça a comme propulsé d'autres spectacles. Il commence à en avoir d'autres. Mais le concept, c'est comment on s'est réunis, on s'est rencontrés, Caroline et moi, et on avait déjà créé une chanson ensemble. Elle, c'est une collaboration, tout ça. Et pendant que je vais, comme on a toutes mené un concept, elle va raconter des histoires et moi aussi. Puis ça va être aussi comme familial. On s'adresse aussi aux enfants et on s'adresse aux familles. Alors, parmi le répertoire, bon, il y a quelques-unes de mes compositions. J'ai parlé de l'Antana Bandana, qui est une fleur multicolore qui a gagné un concours de beauté. Et c'est vrai, pendant pleine pandémie en 2020. Mais il y en a aussi qui sont très, très belles, mais il y en a aussi qui sont empoisonnées. Alors
ça, les enfants adorent ça.
Et qui, généralement, sont très belles.
Oui, c'est ça. Un petit parallèle avec les femmes, peut-être.
Dangereuses.
Alors, il y a ça. On va introduire Carmen.
Ah, c'est intéressant.
On fait l'oiseau. Et puis, pendant que je chante, et elle va dessiner tous les personnages, elle va raconter parfois des histoires, je vais jouer au piano. Alors, c'est vraiment un concept
d'une heure.
C'est
vraiment intéressant. Dominica, c'est vraiment un plaisir de t'avoir accueillie aujourd'hui.
Écoute, tellement réciproque. Merci,
Chantal. Et on va sur ton site, Dominica Mérola, on aura tous les détails, ton agenda, évidemment, les prochains spectacles à venir.
Ah, écoute, ça a été un bonheur de se retrouver avec Winston McQuaid. Merci.
Merci beaucoup.
Nathalie Barrière. Merci Chantal. Ouais. En fait, un très beau concept d'émission.
Bon,
merci.
Alors, au plaisir, Dominica.
Mais au plaisir,
et on te suit dans ta carrière.
Et je vous souhaite à tous et toutes un bel été.
Oui, merci.
Pour venir voir les concerts, les spectacles.
Nola Char.
On continue tantôt avec Winston. Thank you. Ah ben, on reprend avec Winston, bien sûr, Winston. Alors, on va conclure l'émission avec toi. On a encore quelques minutes. Alors, justement, bon, comment ça se passe ton été?
L'été se passe, je vais te dire, en déplacement. En déplacement parce que les saisons se suivent au Québec et l'actualité culturelle ne prend pas de vacances.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'on passe là d'un trop-plein de musique et le théâtre et tout le reste. Et puis là, tout à coup, on se retrouve avec un très gros plein.
Un autre plein.
Un autre plein, le plein estival. Donc, il y aura le Domaine Forget. Il y aura, j'attends avec impatience, le concert de l'OM sous la montagne,
ben oui,
si on
le
veut.
Le 6 août avec Yannick Nézet.
Et il y a du théâtre. J'ai vu, par exemple... quelques pièces de théâtre qui m'ont vraiment bousculé.
Des festivals. Il y a la virée classique de l'OSM, bien sûr, qui s'en vient aussi.
Absolument.
Il y a plein de choses.
Au milieu du mois d'août. Alors, mon été, ça va être ça.
OK.
Quelques déplacements,
mais
ça
toi,
bouge beaucoup.
Mais toi qui es si curieux
et
qui es un passionné de musique, forcément, je comprends que c'est privilégié. Hein. Mais il n'y a pas que ça, finalement. Bon, toi, là, tes étés d'enfance, ça se passait comment?
Moi, je viens de l'île d'Orléans.
Oh, wow.
Sainte-Pétronée de l'île d'Orléans.
Oh, merveilleux.
Comme toute la famille, mais la famille du côté de maman. Les McQuaid, ça vient d'ailleurs, ça vient d'Irlande, ça vient... Bon. Mais à Sainte-Pétronée, toute la famille du côté de maman a été baptisée là, sa première communion là, la confirmation là, le mariage là et les funérailles là. Alors, tu sais, Le cimetière de Sainte-Pétronille est garni de gourdeaux, de rhum, de tout ce qu'on voudra. Enfin, mes étés ont été absolument fabuleux. J'ai grandi, j'ai passé mes étés à l'île d'Orléans à jouer aux cow-boys puis aux Indiens avec mes cousins, qui étaient nombreux,
ouais.
À se baigner à la plage en face de l'épicerie chez Blais. Ça a été formidable.
Un bel esprit familial dans un lieu vraiment unique. Alors, est-ce que tu voyais, quand tu étais jeune, passer Félix?
Bien, Félix n'était pas à Lille à l'époque. Félix est relativement récent qu'il soit installé à Lille. Il y avait, par ailleurs, on entendait dire qu'il y avait un chac sur la Batture à Saint-Pierre où il allait parfois se réfugier.
Okay.
Ça demeurait une légende, j'allais dire urbaine, mais une légende rurale. Parce que mais éventuellement, quand il est revenu d'Europe, il s'est fait construire une maison
ça,
à Saint-Pierre.
D'accord. Parce que c'est drôle, ma grand-mère avait une maison de chambre sur Sherbrooke. Mmh, et puis Félix louait une maison. Pas une maison, mais une chambre. Dans la maison de chambre de mes grands-parents, c'est fou.
Ouais.
Alors voilà. Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que toi, la radio, tu as commencé jeune? Est-ce que c'était un emploi d'été?
Écoute, c'était un emploi de dépannage au départ.
Okay.
Parce que, après l'École des beaux-arts, j'avais comme participé à un concours pour une œuvre qui serait choisie, et bon, alors en sculpture. Et il m'est arrivé un incident, il est arrivé un incident où la personne responsable, donc j'ai été obligé de débourser pas mal de sous. Par rapport à ça.
Ah, OK.
Alors, il y a un de mes amis qui était en radio à CKCV à Québec. Il dit, écoute, il y a un créneau qui est ouvert entre 10h et minuit. Si ça te tente, je te l'offre. Alors, ça a commencé tranquillement comme ça. J'ai fait CKCV. J'ai fait, après ça, ça a été Sherbrooke, où il y avait, en somme, de la télé, de la radio FM, de la radio anglophone.
Mm-hmm.
Donc, ça a été mon école, d'une certaine façon, que je participais à tout ça.
Alors, la suite,
alors, puis après
on
ça,
la connaît.
Ça a été, ouais.
Évidemment. Alors, c'est sûr que, bon, on va devoir se quitter très bientôt. Là, évidemment, on arrive à la fin de l'émission. Ça a été un plaisir, Winston.
J'aime beaucoup la vibe de ton émission.
Ah, oui,
j'aime beaucoup le sentiment, ce qui... Oh, non, vraiment.
Ben, tant vivant, mieux.
Il y a une liberté chez toi qui est...
On a beaucoup de plaisir à la faire. Puis j'ai Nathalie avec moi aussi.
Nathalie
Barrette, c'est vraiment charmant.
Oui,
et puis on reçoit des invités
merci.
Tellement aussi intéressants. Dominica qui est finalement restée avec nous.
Oui.
Pourquoi elle allait sortir du studio?
Ben oui, tout à fait.
Elle voulait pas. Ben non, me regarder en voulant dire t'es sérieuse.
On n'a pas eu besoin de m'attacher à la chaise.
Alors,
merci Chantal.
Alors ça a été un plaisir.
Merci à toi.
Et puis
évidemment.
Merci Nathalie.
Merci.
Ça a été du bonheur que de partager ce moment, cette belle heure avec vous. Et puis nous on sera là lundi. On reprend le collier lundi Nathalie et moi. Et puis on a une autre belle semaine qui s'en vient. Mais entre temps on va se reposer un peu. Mais si possible. En tout cas il y a plein d'activités. Alors je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Et puis revenez-nous rendez-vous la semaine prochaine entre midi et 13h. Aime l'été! Au revoir!
Dans un instant.